Ce sont des hommes, des femmes, engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise, engagés aux côtés de ces associations. C'est le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. Vous en avez pris l'habitude depuis 4 saisons déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager, à liker ces podcasts, à les réécouter même durant l'année et pendant cette période du mois de novembre et décembre pour célébrer le Giving Tuesday, la générosité. Eh bien, vous le savez, chaque écoute, chaque partage, chaque like de ce podcast va permettre à des associations de se partager une petite cagnotte supplémentaire qui va abonder la collecte déjà en cours sur la page, sur le site de solidaritégrandouest.fr. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, eh bien, nous allons évoquer un sujet d'ailleurs qu'on a déjà évoqué, mais on va l'évoquer sous un autre angle cette fois-ci. C'est la question du sport adapté pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et on s'aperçoit que le sport fait partie du traitement. Avec moi, j'ai 3 invité pour nous présenter cette spécificité. Ça se passe à Saint-Brieuc. Et tout d'abord, Damien Houdot, qui est le responsable qui pilote le fonds de dotation. Bonjour Damien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On essaiera de comprendre un petit peu pourquoi d'ailleurs des hôpitaux se dotent d'un fonds de dotation, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de piloter en plus de cette opération que vous menez sur le sport adapté pour le traitement du cancer. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir un médecin, une médecin oncologue. Il s'agit de Corinne Allôme. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Sandra Jahan, qui est coach sportive et qui fait partie de ce programme et qui permet d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer à pratiquer du sport, une activité physique adaptée. On pourra d'ailleurs savoir si activité physique adaptée, sport, c'est la même chose ou est-ce qu'il faut, il faut dissocier les deux. Je vais commencer avec vous, Damien, si vous le voulez bien. On va évoquer ce fonds de dotation. On le voit de plus en plus de nombreux hôpitaux aujourd'hui. En plus, j'ai envie de dire, de leur ligne budgétaire habituelle, créent des fonds de dotation. Quel est l'objectif pour un centre hospitalier comme celui de Saint-Brieuc d'avoir un fonds de dotation? Qu'est-ce qu'il permet?
Alors, ce fonds de dotation qui s'appelle LIAM, en l'occurrence, qui signifie lien en breton, il a été mis en place il y a maintenant 2 ans. Il vise notamment à diversifier les sources de financement des établissements pour porter des projets qui, nativement, ne rentrent pas forcément dans des budgets hospitaliers du fait de leurs particularités. Donc, ça nous permet d'une part de diversifier ces sources de financement, mais également de porter à l'extérieur de l'établissement des projets qui n'ont pas forcément une visibilité lorsqu'ils sont menés simplement de façon classique au sein d'un hôpital.
Quels sont ces projets, alors justement, Damien Houdot, au-delà de celui dont on va parler durant quelques dizaines, vingtaines de minutes dans ce podcast?
Alors, on a une dizaine de projets actuellement pour 6 hôpitaux publics des Côtes d'Armor. Nous avons, par exemple, un projet que nous avons mené l'année dernière de mise en place d'un triporteur électrique dans le centre gériatrique de l'hôpital de Saint-Brieuc, qui permet, par exemple, de faire profiter les résidents de balades, soit à l'intérieur de la résidence, soit même en en étant accompagné. On a également des outils innovants de type casque de réalité virtuelle qui permettent d'emmener le patient dans des expériences sensorielles différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre et notamment de modifier des pratiques médicales en convertissant par exemple des interventions qui se faisaient jusqu'à présent sous anesthésie générale en anesthésie locale. Donc moins de médicaments, une meilleure récupération des patients et puis moins de stress également face à ces épreuves que peuvent constituer parfois une intervention chirurgicale.
En fait, ce que vous soulignez aujourd'hui, c'est que un traitement, et on va le voir d'ailleurs avec le docteur Allôme et puis avec avec Corinne et Sandra, pardon, c'est que en plus des parcours de soins traditionnels qui sont exercés à l'intérieur d'un hôpital, on s'aperçoit que l'environnement lui-même, que la capacité à récupérer passe aussi par des choses qui sont, j'allais dire, non médicamenteuses, qui font peut-être partie du traitement mais qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et qui ne sont pas premières, en tout cas dans les budgets hospitaliers, que les fonds de dotation viennent et permettent d'aller plus loin, toujours dans l'objectif de permettre aux patients d'aller mieux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle d'une part des soins de support, lorsque des éléments viennent vraiment en complément de soins classiques. Et puis, vous avez par exemple donc, les casques de réalité virtuelle qui sont en pratique, alors pas forcément dans la catégorie des soins de support, mais qui sont des dispositifs qui viennent à leur façon, de façon complémentaire dans le cadre d'une prise en charge.
Alors, quels
et
sont
c'est
les...
notamment, effectivement...
Ouais. Et c'est quoi les besoins d'un fonds de dotation comme le vôtre aujourd'hui? Et comment vous collectez cet argent grâce à des collectes comme celles qui sont opérées, par exemple, sur solidaritégrandouest.fr?
Oui, alors tout à fait. On a, depuis le début de la mise en place de ce fonds de dotation, collecté quasiment l'équivalent de 250 000 euros. Auprès principalement d'entreprises, mais également d'associations qui se mobilisent pour mener des actions et lever des fonds qui sont ensuite reversés au fonds de dotation à travers, par exemple, des manifestations sportives et puis enfin des particuliers, pas forcément des patients, mais on a aussi des patients ou des familles de patients qui souhaitent remercier à leur façon les équipes qui ont l'occasion de prendre en charge leurs proches, notamment en soutenant un des projets du fonds LIAM.
Je ne vous ai pas posé la question, mais le fonds LIAM existe depuis combien de temps, Damien ?
Maintenant, 2 ans.
Donc 250 000 euros en 2 ans, ça fait une moyenne de 125 000 euros par an. Je pense qu'il vous faudrait beaucoup plus. Quels sont aujourd'hui les freins à lever ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'il y a c'est une question de notoriété ? Est-ce que ça peut c'est le fait que ce soit un hôpital qui soit derrière ça, qui puisse parfois être un frein ? Parce qu'on se dit finalement un hôpital public va chercher des fonds privés,
C'est du temps à y consacrer, je pense que c'est le principal frein au développement d'une collecte, hein. Mais on est dans une phase, on va dire, pour moi, que je qualifierais de rampe de lancement, c'est-à-dire que quand vous avez des donateurs qui ont soutenu un projet localement, qu'ils ont eu l'occasion de voir que ce projet il a été mis en place et qu'on a encore d'autres projets intéressants à leur proposer, eh bien, on observe maintenant, puisqu'on a maintenant 2 tours de roue, on va dire 2 années civiles derrière nous, que des personnes reviennent assez naturellement vers nous avec l'idée de poursuivre et d'inscrire leur soutien dans la durée et non pas sur un seul projet.
Alors, bien évidemment, comme on ne l'a pas évoqué parce qu'ils ne sont pas présents avec nous, mais ils sont bien présents sur la collecte, hein, y a toujours une entreprise qui est partenaire, qui est mariée avec l'association ou le fonds de dotation qu'on soutient. Dans cet épisode, et avec vous, avec le fonds LIAM, eh bien, c'est le Leclerc de Plérin, hein, qui soutient cette collecte. Une collecte qui a un objectif de 9 000 euros. Il y a un peu plus de 50% de la collecte qui est faite, donc on peut appeler les auditeurs bien évidemment à se mobiliser pour venir compléter cette collecte. Vous savez que 1 euro versé, 10 euros versés sur la plateforme, c'est en fait 30 euros qui sont versés au fonds LIAM. Et n'oubliez pas, hein, que le 28 novembre, tous les dons sont multipliés par 4. Donc, vous, de votre côté, Damien et vos équipes, et Corinne et Sandra, mettez un petit coup de boost ce jour-là, puisque 10 euros, ce sera 40 euros sur la cagnotte. Et puis, bien sûr, chaque like, chaque partage de ce podcast va permettre d'augmenter un petit peu cette cagnotte qui va vous aider à développer justement cette question du sport adapté adaptée, de l'activité physique adaptée pour les personnes atteintes de cancer. Je vais me retourner, ça c'est une façon de parler puisque nous sommes à distance les uns des autres. Je vais me retourner vers vous, Corinne Allôme, vous êtes oncologue à l'hôpital de Saint-Brieuc. En quoi... on parlait de traitement, on ne peut pas parler de médicaments à proprement parler, mais de traitement. D'abord, comment on s'est aperçu que l'activité physique adaptée pouvait avoir un rôle bénéfique sur la guérison des personnes atteintes d'un cancer, Corinne Allôme?
En ce qui concerne l'activité physique, déjà, ça regroupe plusieurs choses. C'est certes l'activité sportive, mais c'est aussi... l'activité physique de tous les jours, c'est-à-dire marcher pour aller chercher son pain, monter les escaliers, jardiner, faire son ménage, aller chercher à pied les enfants à l'école. Tout ça, ça fait partie de l'activité physique et on a pu voir à travers d'études cliniques, c'est-à-dire d'études épidémiologiques de comparaison, que chez des personnes qui étaient plus sédentaires et qui avaient moins d'activité physique, d'une part, c'était un facteur de risque à la survenue de cancer. Mmh. Et on a pu montrer par des études d'intervention qu'une activité physique régulière était un facteur de prévention de certains cancers, en particulier après la ménopause, et en particulier des cancers du sein et du cancer du côlon, à condition d'avoir une activité physique régulière et assez fréquente tout de même, on dit au moins 3 heures par semaine. Donc ça c'était la première étape.
Et l'activité physique, alors j'entendais une émission dernièrement qui évoquait cette activité physique, c'est une activité physique, c'est alors évidemment plutôt aller acheter son pain à pied que de... Mais c'est avoir par exemple une démarche qui n'est pas forcément sportive, mais qui est à la limite de l'essoufflement, exactement. C'est ça ? C'est-à-dire par exemple, on va marcher un peu plus vite pour être à la limite de l'essoufflement, et vous dites 3 heures, ce qui fait à peu près une demi-heure par jour finalement, c'est pas énorme.
C'est exactement ce que je dis aux patientes, c'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut se sentir un petit peu en effort, mais quand même être capable de parler. C'est-à-dire qu'on ne demande pas un niveau d'activité qui fait qu'on est essoufflé et qu'on ne peut pas discuter. Mmh. Je pense que le test, c'est ce que je leur dis, si vous pouvez parler, mais que vous sentez quand même que votre cœur bat un peu plus vite que d'habitude, c'est que vous êtes en activité physique modérée, et c'est ça qu'il faut atteindre pour que ce soit actif. Ça peut se faire dans la vie quotidienne, mais ce n'est pas forcément suffisant quand même. C'est pour ça qu'on propose des programmes d'activité physique adaptés, puisque là, je vous ai parlé de l'activité physique en prévention, mais nous, notre programme, c'est l'activité physique pendant les traitements du cancer. Donc là, c'est un pas de plus.
Comment justement les patients accueillent cette démarche ? On sait bien que, je dis on sait bien, on n'est pas tous passés par un accompagnement ou avec des personnes ayant eu un cancer, mais on évoque souvent cette posture qui est d'une croyance infinie dans le médicament, mais que quand on arrive avec des solutions annexes, comme le sport, j'ai presque envie de dire, on pourrait l'évoquer, je ne sais pas s'il y a des programmes sur la question de la nutrition, c'est-à-dire comment bien manger pour justement faire partie du traitement global. Les patients, quand on sort du médicament, finalement, parfois, refusent. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre, à les entraîner dans cette démarche ?
Alors, effectivement, je rejoins votre point de vue sur le fait que maintenant, les traitements du cancer sont de plus en plus efficaces. Ça, mais également engendre aussi des effets secondaires qui sont non négligeables. Et quand on accueille un patient pour mettre en place un plan de traitement, on évoque avec lui ou avec elle l'ensemble des effets secondaires et après, on essaye de leur proposer des solutions pour essayer de contourner ces effets secondaires ou de faire en sorte qu'ils se minimisent et qu'ils leur permettent d'avoir une vie la plus normale possible. C'est vrai que la première réaction des gens, c'est « Oh là là, je vais avoir de la chimiothérapie, je vais être fatiguée, il faut que je me repose. » Et même l'entourage peut dire « Ah non, 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 surtout, tu ne vas pas aller sortir, il pleut, il fait froid, tu vas attraper du mal, c'est pas pour toi, repose-toi. » C'est vrai que la première réaction, c'est souvent celle-là. « Comment je vais être fatiguée ?» Et vous me demandez en plus…
d'aller faire du sport.
Voilà, donc moi, je n'ai jamais vie, c'est pas possible. Ou je ne m'en sens pas la capacité, ou je ne sais pas comment faire, ou je n'ai pas d'argent pour le faire. C'est aussi toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de freins à la fois psychologiques, physiques, de l'entourage à la mise en place de l'activité physique pendant le traitement du cancer. Alors du coup, on explique que l'activité physique, c'est le seul traitement reconnu de la fatigue pendant le cancer. Et ça, ça a été prouvé dans des études cliniques. Et ça, on dit aussi aux gens, nous, on va vous aider, on va vous apporter les médicaments, mais il y a une partie des choses, c'est vous qui avez la clé. Et c'est vous qui allez pouvoir vous aider toute seule. Maintenant, on va vous aider, nous aussi, en vous proposant un certain nombre de choses. Mais le seul traitement de la fatigue, c'est l'activité physique, et ça a été prouvé dans des études. Donc, c'est vraiment très important d'expliquer ça, de prendre le temps d'expliquer.
Donc, le seul traitement de la c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que l'effort d'une activité physique qui pourrait éventuellement être apparentée à de la génération de fatigue est un traitement lui-même pour la fatigue généralisée par l'administration des médicaments tels que les chimiothérapies.
Parfaitement. Ça a été mesuré. On dit qu'environ, ça diminue de 30% la fatigue qui est liée, qui est chimio-induite ou qui est liée au cancer par lui-même. Donc, c'est alors, vraiment très, très important.
Alors, est-ce qu'on sait calculer ? Je suppose que les études sont là. Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est est-ce qu'on sait mesurer l'impact que ça a aujourd'hui sur la progression du traitement, c'est-à-dire entre ceux qui ont une activité physique adaptée et ceux qui n'ont pas d'activité physique adaptée, quels sont les risques de récidive ou de décès ou de longueur de traitement plus importante que ceux qui en font.
Alors, c'est difficile de prouver le bénéfice par des études épidémiologiques, c'est toujours très compliqué, mais quand même, on a des chiffres. Et on sait, surtout dans le cancer du sein, parce que c'est un cancer fréquent, donc on a pas mal de chiffres là-dessus, et on sait que l'activité physique, alors, initiée pendant le traitement, poursuivie après le traitement pendant des années, est toujours à un niveau suffisant, hein, en termes de durée, d'intensité, ça diminue le risque de récidive de 20 à 25%. Et ça diminue la mortalité par cancer. Et de même, comme les facteurs de risque du cancer se sont souvent les mêmes que ceux de la maladie cardiovasculaire, ça diminue aussi les risques de décès par maladie cardiovasculaire. Donc, c'est pour ça que je parle de traitement. C'est que certains de nos médicaments qu'on propose en préventif des rechutes ont un impact qui est à peine plus fort que celui de l'activité physique. Donc, c'est pour ça que je parle de traitement et qu'on essaye d'aider les gens à retourner vers l'activité physique.
Alors, on va évoquer ça avec Sandra d'ici quelques instants. J'ai deux dernières questions sur... D'abord, comment est-ce qu'on travaille aussi avec les médecins généralistes ? Parce que quand on a un cancer, on ne voit pas son oncologue tous les mois ou toutes les semaines. On le voit à des moments très, très particuliers. Hein, comment aujourd'hui on travaille avec les médecins généralistes, les médecins qui accompagnent ces malades-là, pour leur dire, parce que je vois bien le médecin généraliste, il faut que vous fassiez du sport. Mais finalement, les propos que vous tenez, il faudrait aussi que les généralistes qui accompagnent ces personnes qui ont des cancers, leurs patients qui ont des cancers, puissent avoir le même discours aussi bienveillant, aussi clair, pour leur dire non, c'est pas juste faites du sport comme on vous dit faites du sport parce que vous irez mieux, mais vraiment parce que ça fait partie du traitement.
Alors, en fait, on voit quand même beaucoup nos patients dans la phase de traitement. Les chimiothérapies se renouvellent toutes les 3 semaines, certaines toutes les semaines. La radiothérapie, c'est tous les jours. Donc, pendant la phase de traitement, alors ça dépend de la pathologie, mais en gros, pendant l'année du traitement, on voit beaucoup nos patients. Et dans cette... On les voit plus d'une fois par mois, souvent. Et donc, du coup, c'est des messages qui sont répétés à longueur de temps. On répète les choses, on les encourage, on évalue ce que ça donne, on met des objectifs pour chacun qui soient à hauteur de leur état physique. Et je pense qu'il y a un bon relais des médecins généralistes. Malgré tout, j'ai jamais vu un médecin généraliste qui aille contre ce que je dis, ce que je propose sur ce plan-là.
Oui, je pense pas qu'ils soient contre, mais c'est leur niveau d'information. Pour arriver à accompagner un patient qui serait un peu réfractaire d'aller dans cette démarche-là.
Bien sûr. Je pense que tous les médecins, et pas simplement les médecins généralistes, tous les médecins ne sont pas forcément convaincus de leur rôle aussi face à ça. ne s'agit pas simplement de dire il faut faire du sport, point barre. Il faut, comme pour quelqu'un qui veut arrêter le tabac, comme pour quelqu'un qui prend, qui met en marche une démarche pour la perte de poids, il faut un accompagnement qui soit récurrent. Et, et ça ne va pas marcher si on leur dit allez faire du sport, c'est bien pour vous,
c'est
et puis
ça.
Que ça ne marchera pas. Il faut forcément, et c'est pour ça qu'on a monté ce programme particulier à l'hôpital, c'est pour que les gens se sentent accompagnés et encouragés dans la démarche.
Alors, qu'est-ce qu'il a, c'est peut-être Sandra qui va pouvoir nous répondre, qu'est-ce qu'il a de particulier ce programme, Sandra ? Dites-nous un petit peu ce que vous, en tant que coach sportive, comment vous intervenez dans ce programme et dans ce dispositif particulier d'accompagnement des personnes atteintes de cancer sur une activité physique sportive adaptée.
Alors, nous, on a mis en place en commun avec le docteur Alloum, donc l'activité marche nordique. Donc, puisque la marche nordique fait travailler 80% du corps. Donc, voilà. Donc, elles ont deux séances par semaine, une le lundi pour un groupe un peu plus rapide et une le mardi. Donc, elles font à peu près le même nombre de kilomètres, un peu plus de temps.
Donc, c'est-à-dire qu'on part se balader alors ?
Oui, voilà, on part se balader. Donc, ça permet d'oublier un peu tout le reste. Ce qui est l'avantage de la marche nordique, être dans la nature complète. Et elles ont également une séance de gym douce renforcement musculaire le matin. Donc, ce qui permet de se remuscler un peu, puisqu'avec les traitements, malheureusement, on perd un peu tout ce qui est masse musculaire.
Quelle place vous prenez dans cette relation médecin-patient, Sandra ? Parce que vous n'êtes ni médecin, enfin, vous n'êtes pas médecin, vous participez à ce traitement. Comment se passe ce dialogue entre les équipes médicales et vous par rapport à chacun des patients, parce que chacun des patients a une pathologie différente, donc je suppose qu'on n'appréhende pas chacun des patients de la même manière ?
Non, effectivement. Alors, puisqu'elles ont, même si elles ont tout un cancer du sein, ou autre hein, d'ailleurs, elles sont toutes différentes. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec le docteur Alloum. Enfin, dès que je peux observer quelque chose de particulier chez une patiente, c'est tout de suite remonté au docteur Alloum qui la recevra à mon avis très très rapidement comme d'habitude et traitera traitera rapidement j'ai pu observer. Et en fait, on est très 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 liés. En fait, dès que moi je peux observer quelque chose, c'est retransmis. Dès que docteur Alloum a quelque chose à me dire par rapport à une patiente plus qu'une autre, c'est retransmis très rapidement. C'est vraiment très lié, c'est vraiment la patiente, le docteur et le coach sportif, tout est lié.
Et vous avez des rendez-vous réguliers, récurrents pour faire le tour des patients ou c'est vraiment au cas par cas quand vous avez une information à faire remonter ?
C'est au cas par cas. En début de session, on se voit pour mettre en place les groupes, voir un peu les pathologies de chacune et les points forts et les points faibles de chacune. Et ensuite, lorsque j'observe quelque chose de particulier, c'est remonté le soir même.
C'est combien de patients aujourd'hui qui sont accompagnés sur ce programme particulier, Corinne ou Sandra d'ailleurs, peu importe.
C'est plus Sandra qui a le
chiffre. Alors, Sandra, vous avez les chiffres. C'est vous qui avez les chiffres, Sandra.
On ne doit pas être loin d'une vingtaine quand même de suivis actuellement.
Une suivi actuellement ?
Une vingtaine, oui.
Corinne,
on a en fait, ça marche par trimestre. Les gens s'inscrivent pour un trimestre et les groupes se renouvellent tous les trimestres pour permettre à plus de patientes d'être prises en charge et aussi pouvoir faire des plus petits groupes pour qu'il y ait une attention plus individuelle pour chaque patiente. Donc, en fait, les gens peuvent se réinscrire d'un trimestre sur l'autre s'il reste de la place, mais en gros, le groupe suivi chaque trimestre est de 20 personnes.
Donc, en gros, si je vous suis bien, l'activité physique adaptée permet de contribuer à la prévention du risque de récidive, l'amélioration de la qualité de vie, une meilleure tolérance au traitement. Enfin, bon, bref, il n'y a que des bénéfices pour cette... Alors, pourquoi ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale ? Est-ce que c'est en cours ? Ou est-ce que ça ne le sera jamais parce que ça ne rentre pas dans leur case et que ce n'est pas, ils ne considèrent pas ça comme un élément à part entière, médicamenteux ou traitement ?
Alors, je crois que, je ne sais plus exactement depuis quelle date, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on peut faire des prescriptions médicales, on peut prescrire de l'activité physique. Ça, on peut faire des ordonnances. Maintenant, il n'y a pas de prise en charge qui soit... fixé pour cela. Il y a des mutuelles, là quand on parle ailleurs, certaines mutuelles ont un forfait activité physique et la sécurité sociale, je crois qu'on peut avoir parfois un forfait bilan, c'est-à-dire faire le point sur une personne donnée et voir un petit peu comment de quoi il a besoin. Mais après, ce n'est pas pris en charge du tout, parce que ce n'est pas considéré comme une intervention
C'est indirect. Damien Oudot, justement, cette collecte, elle va servir à quoi ? Le fonds de dotation va permettre quoi une fois que l'argent qui aura été récolté sur solidaritégrandouest.fr arrivera sur vos comptes ? Vous allez en faire quoi et pourquoi ?
Alors concrètement, la collecte vise à pérenniser en fait cette activité physique adaptée, lui donner de la lisibilité dans le temps, à savoir entre 3 et 5 ans. On a actuellement des subventions qui nous permettent de financer ce projet, mais qui ne couvrent pas l'intégralité des coûts liés à ce projet par an. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher l'équivalent d'environ 2500 à 3000 euros par an, ce qui nous manque, sur 3 à 5 ans, donc un objectif de collecte de l'ordre de, on va dire, 10 à 15 000 euros pour sécuriser cette activité.
Une activité qui, on le voit, a plein de bénéfices. Merci en tout cas à tous les trois, à vous Corinne Allôme, Sandra Jahan et Damien Oudot, de nous avoir ouvert cet espace de compréhension, comme quoi l'activité physique et sportive adaptée peut être bénéfique. On le sait, de toute manière, l'activité physique est bénéfique pour beaucoup de choses, mais en tout cas pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, elles permettent, et on l'a vu, d'éviter, de prévenir le risque de récidive, de se sentir mieux dans son corps, de se réapproprier son corps, particulièrement quand il y a eu des mutilations liées au traitement de ce cancer. Merci Corinne, merci Sandra, merci Damien d'avoir été avec nous dans ce podcast solidaire. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à fin décembre pour l'écouter, le partager, le liker afin de soutenir ce projet et ces projets, différents projets qui sont présents dans cette saison 4 du podcast solidaire, que vous pouvez aussi vous rendre sur solidaritégrandouest.fr, faire des promesses de dons. Le 28 novembre, ce sera consacré au Giving Tuesday et que donc tous les dons seront multipliés par 4. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute des autres podcasts si vous avez envie d'en savoir plus sur d'autres sujets. À très bientôt, au revoir.